L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés. Employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Le rendez-vous des amateurs de sport avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
On ouvre le vestiaire pour les 60 prochaines minutes en ce mercredi 12 juin 2024. Dom Bolduc avec vous. Pour nous parler un peu de sport, hein, évidemment, ça continue, la planète sport qui poursuit toujours, hein, même s'il y a des journées un peu plus tranquilles. On se dit, hier, c'était quand même assez tranquille, il y avait un petit peu de baseball, pas de hockey, pas de basket. Ce soir, il y a du basket, match numéro 3 de la finale entre les Celtics de Boston et les Mavericks de Dallas. D'ailleurs, on en parlera avec Phil Urtubiz en fin d'émission. Et il y a eu une grosse nouvelle du côté des États-Unis. Et on pourrait pratiquement dire jour de deuil parce que c'était une véritable icône du basketball américain, l'ex-joueur Jerry West qui avait été intronisé au temple de la renommée du basketball et qui avait servi également d'inspiration au fameux logo de la NBA. Vous savez, le fameux logo qu'on a sur la ligue, vous voyez NBA, il y a un logo, c'est un joueur de basketball avec bleu, rouge et blanche. Eh bien, le croquis, en fait, qu'on voit, c'est Jerry West. Eh bien, cette inspiration est décédée ce matin à l'âge de 86 ans. Ce sont les Clippers de Los Angeles qui en ont fait l'annonce. Celui qu'on surnommait Monsieur Clutch, en raison de ses nombreux exploits en fin de match en tant que joueur, a été intronisé au temple de la renommée du basketball en tant que joueur en 1980. Et de nouveau en tant que membre de l'équipe olympique américaine, il avait participé en 1960, il a été intronisé en 2010, donc il sera intronisé pour la troisième fois un peu plus tard cette année en tant que bâtisseur. Tu sais qu'on parle quand même d'une grosse personnalité. On dit qu'il personnifiait l'excellence au basketball et l'ami que tout le monde connaissait. C'est ce qu'ont mentionné les Clippers lorsqu'ils ont fait un communiqué sur le décès. La femme de West, Karen, était à son chevet lorsqu'il a rendu l'âme. Sélectionné 14 fois au match des étoiles, 12 fois au sein de l'équipe d'étoiles de la NBA, a contribué au championnat des Lakers de Los Angeles en 1972, nommé joueur par excellence de la série finale de la NBA, même si son équipe s'est inclinée en 1969, et fut sélectionné au sein de l'équipe d'étoiles marquant le 75e anniversaire de la Ligue. Évidemment, il y a plusieurs joueurs qui ont fait les éloges hein, de M. West. C'est le cas de LeBron James, qui sur les réseaux sociaux a offert ses condoléances. Quant à Michael Jordan, il a décrit West comme étant un ami et un mentor et un grand frère pour lui. Il dit son amitié et ses connaissances étaient inestimables. Il avait toujours rêvé de jouer contre lui, mais plus il apprenait à le connaître, plus il se disait qu'il aurait aimé l'avoir comme coéquipier. Il admirait ses opinions sur le basketball et il partageait également beaucoup de points en commun lorsqu'il discutait de ce sport. West a également été le directeur général de 8 éditions championnes des Lakers, a contribué à l'élaboration de la légendaire dynastie Showtime. Parmi les coups fumants là, qu'il a fait pendant qu'il était le dirigeant des Lakers, il a repêché Magic Johnson, James Worthy, également il a choisi Kobe Bryant et a éventuellement fait appel à Shaquille O'Neal pour venir jouer à ses côtés. T'sais, c'est quand même une feuille de route. Il y avait un bon flair pour choisir les bons joueurs. Il a occupé également divers postes de direction chez les Grizzlies de Memphis, les Warriors de Golden State et les Clippers de Los Angeles. Donc, on en parlera avec Phil Urtubiz, donc sur le décès de Jerry West. Dans les autres nouvelles, bien évidemment, on est en finale de la Coupe Stanley. Le troisième match de cette finale se poursuivra demain. On s'en va du côté d'Edmonton pour les rencontres 3 et 4. Puis on fait ça en grand du côté d'Edmonton. On est content que la finale de la Coupe Stanley soit de retour au Canada et soit de retour à Edmonton pour la première fois depuis 2006. Pour les avant-matchs, on fait des petits spectacles. La formation canadienne All Lady Peace sera là demain pour le match numéro 3. Et Shania Twain sera là pour le match numéro 4. Donc, quand même très intéressant. Les Oilers qui doivent absolument l'emporter, au moins remporter le troisième match, parce que sinon, ça va devenir difficile par la suite. Mauvaise nouvelle du côté des Oilers, ben, c'est que le capitaine des Panthers, Barkov, s'est entraîné ce matin. Il était donc sur la patinoire en vue du troisième match et devrait être en uniforme. Celui qui avait reçu un coup, une mise en échec à la tête, là, directement au visage de la part de Leon Draisaitl, semble être remis de tout ça et devrait être en uniforme. Donc, on se met un soupir de soulagement chez les partisans des Panthers et chez la direction de l'équipe également. Toutefois, l'entraîneur-chef Paul Maurice n'a pas voulu s'avancer sur la situation du capitaine, mais il pilotait, on dit, un trio habituel. Il n'avait pas un chandail qui aurait pu laisser sous-entendre que de quelconque restriction de son côté. On dit que sur la glace, il avait une bonne humeur et donc c'est bon signe. On dit que c'est lui qui influence mon humeur, ce qu'a lancé Maurice au sujet de Barkov. Il dit « traverse cette peur si on veut », car on dit vraiment personne ne veut perdre son capitaine. Puis tu sais pas s'il va être indisponible pour une période de temps, pour une longue période de temps. Donc on est content de l'avoir. Sinon, dans les autres nouvelles qui touchent la Ligue nationale, ben tiens, le Canadien, hier, il y a eu un point de presse cet après-midi du côté de Trois-Rivières. On sait que les Lions sont affiliés aux Canadiens et aux Rockets. Eh bien, on renouvelle cette entente. On avait une entente de 3 ans depuis l'arrivée des Lions. Eh bien, on renouvelle cette entente de 3 ans. Alors, 3 autres saisons. L'équipe de la East Coast, qui a été fondée en 2021, appartient maintenant à Jeff Dickerson, qui était présent au Colisée Vidéotron cet après-midi pour faire cette annonce. Pour Dickerson, il était essentiel de demeurer affilié à une équipe de l'importance culturelle du Canadien. Et ce renouvellement illustre le lien grandissant entre la East Coast, la Ligue américaine et évidemment la Ligue nationale de hockey. Cette association avec le Canadien, on dit, renforce les liens avec la communauté et on sait que c'est important ici, donc du côté de Trois-Rivières. On veut être des leaders dans la communauté et le faire avec les Canadiens est un bon exemple d'une façon de faire grandir le hockey. On sait que Dickerson est devenu propriétaire de l'équipe le 10 avril dernier. C'est un homme d'affaires américain. On sait que dans les derniers mois, l'équipe de l'avenir avait été menacée avec les déboires financiers de Deacon Sports and Entertainment, qui avaient perdu, qui ont vendu les parts des Lions Trois-Rivières et qui ont même perdu la franchise des Growlers de Terre-Neuve. On dit qu'on a fait une promesse à la communauté de changer les choses avec cette organisation. Il espère qu'ils pourront montrer leur engagement et gagner au développement des joueurs. Alors, c'est ce qu'il a mentionné Dickerson. Jean-François Houle, qui est entraîneur-chef du Rocket, était présent également à cette annonce et s'est réjoui de la poursuite de l'association entre les deux organisations. En fait, c'est le club-école du Rocket de Laval. Donc, lorsqu'on manque de joueurs, on vient piger chez les Lions de Trois-Rivières. Alors, évidemment, on est content que cette association se poursuive. Il commence déjà à avoir des rumeurs, même si la finale de la Coupe Stanley n'est pas terminée. On s'approche du repêchage également. Il y a certains joueurs qui vont devenir joueurs autonomes sans compensation, mais on dit que les droits de Jane Gunzel intéressent énormément. Et on dit que les Canucks de Vancouver seraient au plus fort de la course pour faire l'acquisition de Gunzel, qui appartient maintenant aux Hurricanes de la Caroline. On dit que le directeur général Patrick Colvin souhaiterait obtenir les droits de négociation parce qu'il devient joueur libre. Donc, vous allez le chercher, vous donnez quelque chose en retour aux Hurricanes, mais il faut que tu le signes. Parce que si tu ne le signes pas, tu le perds pour rien. Là. On s'entend. Alors, il a 29 ans, Gunzel. On veut avoir des droits de négociation avant qu'il ne teste le marché des joueurs autonomes. Donc, vous comprenez, si, par exemple, les Canucks fait son acquisition aujourd'hui, eh bien, on a jusqu'au 1er juillet pour négocier avec lui, alors que actuellement, c'est seulement les Hurricanes de la Caroline qui peuvent le faire. Il y a plusieurs rumeurs, donc, qui, à la date limite cette année, qui laissaient entendre que les Canucks voulaient ajouter Gunzel Donc, à son club. Finalement, il a été échangé aux Hurricanes de la Caroline, même s'il venait d'obtenir les services de l'attaquant Elias Lindholm. Ils auraient envoyé Lindholm aux Bruins de Boston. Ces derniers seraient encore prêts à le rajouter à leur formation. C'est que Lindholm ne veut pas re-signer avec Vancouver, donc il y a une porte qui s'ouvre. Gunzel a accumulé 25 points en 17 matchs avec les Hurricanes au cours de la saison. 4 buts et 5 mentions d'aide en 11 parties en série. C'est un total de 52 points en 50 matchs avec les Pingouins en plus. Donc, une très belle saison pour Gunzel, qui deviendra joueur autonome et qui intéresse bien des joueurs. On parle un petit peu de baseball. Bien, on a bougé du côté des Blue Jays de Toronto aujourd'hui, mais non, attention, partez pas en peur, ce n'est pas Bo Bichette, ce n'est pas Vladimir Guerrero Jr. qui a été échangé, c'est Kevin Biggio qui a été transigé aux Dodgers de Los Angeles. En retour, la formation torontoise met la main sur le lanceur droitier Braden Fisher. Biggio est déjà âgé de 21 ans. Il avait été désigné pour assignation par les Jays vendredi dernier. Il a joué 44 matchs cette année. On parle d'une moyenne d'à peine 200, 2 circuits et 9 points produits. Le fils du légendaire joueur Craig Biggio, membre du Temple de la Renommée, 6 saisons dans l'uniforme torontois où il avait fait ses débuts en 2019. Maintenant, donc, Kevin Biggio va jouer maintenant avec les Dodgers. Pour ce qui est de Fisher, ben lui, il a partagé son temps de jeu au niveau 2A et 3A cette saison. Il a lancé 19 manches, a obtenu une moyenne de points mérités de 5,68 et retiré 30 frappeurs sur des prises, en plus d'accorder 15 buts sur balle. On parle de boxe et on en parlera de boxe dans quelques instants avec notre ami Michel Desgagnés. On dit que Marie-Pierre Houle sera de retour sur le ring dans quelques jours. Évidemment, elle sera la tête d'affiche lors du gala du groupe Yvon Michel qui sera présenté au cabaret du Casino de Montréal le 20 juin prochain, donc samedi la semaine prochaine. L'aspirante mondiale chez les poids super légers va croiser le fer avec la Mexicaine Carla Ramos Zamora. Un combat prévu pour 10 rounds. Elle qui est classée deuxième à la WBA, 9e à l'IBF et 3e à la WBO. Houle sera en quête d'une 3e victoire de suite depuis qu'elle a subi sa seule défaite en carrière contre Sandy Ryan en avril 2023 du côté des Pays de Galles. Elle a une fiche de 10 victoires, 1 défaite et un verdict nul. Pour ce qui est de Zamora, bien elle, un peu plus d'expérience. Elle a 11 victoires, 10 revers et un combat nul. Et ça sera déjà une 4e visite pour elle en sol québécois. Elle avait combattu dans le passé face à Marie-Ève Dicker, Leila Baudouin et Jessica Camara. Elle avait battu d'ailleurs Camara par arrêt de l'arbitre au 4e round en mars 2023. Donc, ce sera intéressant. Et dans les autres combats qui seront présentés cette soirée-là, en demi-finale, Derek Pomerlo, qui est toujours invaincu en 8 combats et 6 KO, tentera de demeurer vaincu et va affronter le britano-colombien d'origine mexicaine Leonel Castanon Riviera qui lui a un dossier de 5-4-1 et 3 KO. C'est un protégé de Stéphane Larouche, donc ce sera intéressant de voir le développement de ce jeune boxeur. Il y a également Théo Owusu, Winner Bondo et Jean Gardy François, de même que Ayoub Mani qui fera ses débuts professionnels lui, donc seront en action dans cette sous-carte. On s'en va à la pause dans quelques instants, donc on va parler de boxe, mais justement avec Michel Desgagnés, mais je profite de l'instant pour vous inviter à vous rendre au ckaj.org. C'est pas le temps d'appeler tout de suite, je vais prendre un finaliste plus tard. Rendez-vous au ckaj.org, section concours pour être finaliste. Parmi les nombreux finalistes qu'on a déjà depuis le début de l'émission, depuis déjà quelques semaines, c'est la 7e semaine qu'on trouve des finalistes pour amener. On vous amène en collaboration avec espacesoccer.com voir le CF Montréal le 20 juillet prochain contre le Toronto FC, toutes dépenses incluses. Donc, on vous paye les billets. En fait, les billets sont fournis, l'hôtel est fourni, puis on paye l'essence, une carte d'essence allant jusqu'à 160 $. Le reste, vous vous amusez. On vous donne même également 2 chandails pour le CF de Montréal, donc le 20 juillet prochain. Le mot de passe aujourd'hui, ça c'est l'arbitre qui le contrôle. Le sifflet. Sifflet est le mot de passe pour aujourd'hui. Vous pourrez nous appeler un petit peu plus tard dans l'émission. Je vais prendre le finaliste par téléphone, mais pas maintenant, parce que dans quelques instants, on ira rejoindre Michel Desgagnés, qui va nous parler de boxe.
Arrêt de jeu. Retour dans le vestiaire dans quelques minutes. Le
dimanche 30 juin, le Calypso fête ses 25 ans à Jonquière en musique. Afin de souligner en grand cet anniversaire, le Calypso offre à toute la population le spectacle de Steve Desgagnés et son Grace Band, qui sera présenté sur la grande scène Loto-Québec à la place Rio Tinto. Une présentation de Ville de Saguenay, Loto-Québec, Rio Tinto, Hydro-Québec, Groupe EPA, Gouvernement du Canada, Gouvernement du Québec, SAQ, Coors Light, Recyc-Québec et Desjardins Caisse du Saguenay. Jonquière en musique, 35 ans de gratuité.
Pat, savais-tu que Equipe-toi.ca liquide son inventaire de tracteurs low-vol? Ben oui, ils liquident leur tracteur low-vol pour faire place au nouveau modèle 2025.
Penses-tu que ça vaut vraiment la peine?
Entre toi et moi, as-tu déjà vu un tracteur de 40 HP pour 26 995 plus taxes? Garanti 10 ans!
T'as un peu, toi, 40 forces, 26 995 piastres?
Plus taxes. Mais hein, ils ont jusqu'à 13 200 de rabais sur les modèles sélectionnés du jamais vu. Equipe-toi.ca, c'est l'endroit idéal pour trouver la machine dont tu as besoin pour travailler. Pour de l'entretien paysager, l'eau forestier, agricole ou particulier. On finance sur place. Equipe-toi.ca, 1504 Boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi-Nord.
Les voyageurs, une invitation de Jean Dumas Saguenay Mitsubishi qui vous offre un vaste inventaire pour livraison immédiate avec la meilleure garantie de l'industrie. Avec Jean Dumas Saguenay Mitsubishi, tracez votre voie. De la bijouterie au rubis, place du Royaume, 30 ans d'expérience et de service après-vente. De spécialité radiateur, pneus et mécanique, 50 ans de fidélité. Le beau vitre d'auto, jamais plus de problèmes sur réparation ou changement de vitre d'auto. Des dépanneurs chef maestro, le chef de file des dépanneurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Prévaction, la mutuelle en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Ce mercredi 19h30, les voyageurs reçoivent au stade Richard Desmeules les Diamants de Québec. On vient encourager notre équipe, les voyageurs, la force du Nord.
Vous faites du camping? Le terrain de votre chalet est immense. Vous voulez vous déplacer sans vous ruiner? Les centres d'autonomie vous offrent maintenant des voiturettes de golf de marque Caro. Trois modèles disponibles, 4 à 6 places. Mag aux 4 roues, tout équipé pour moins cher qu'un côte à côte. Venez voir nos toutes nouvelles voiturettes de golf pour camping et chalet au centre d'autonomie. 690 rue des Actionnaires, Chicoutimi. 399 avenue de la Friche, Dolbeau-Mistassini. Avec les centres d'autonomie, la vie continue. Ce n'est pas une arnaque. Le 92.5 a bel et bien une nouvelle page Facebook. Les fans de CKJ 92.5, Meta, ayant bloqué tout le contenu d'informations canadiens de ces plateformes, nous avons décidé de créer une seconde page pour rester en contact avec vous, nos auditeurs. Venez aimer notre nouvelle page Facebook, les fans de CKJ 92.5, pour connaître les nouveautés à nos émissions, participer au bingo en direct ou encore contacter nos animateurs. Rendez-vous sur Facebook, la page Les fans de CKJ 92.5.
Alors, toujours le fun de jaser box et avec un connaisseur, c'est encore mieux. Michel Desgagnés est là avec nous. Salut Michel.
OK, salut Dom, ça va bien?
Oui, ça va très bien, puis je suis content de parler boxe avec toi aujourd'hui parce que, bon, on a parlé beaucoup de Marie-Ève Ducaire dans les dernières années, on parle beaucoup de Kim Clavel également, mais il ne faut pas oublier Marie-Pierre Houle, j'en ai parlé avant la pause, elle va remonter sur le ring, c'est une belle boxeuse qui va bien en ce moment, 10 victoires en 12 combats, classée 2e à la WBA, 9e à l'IBF, 3e à la WBO, c'est un bel espoir québécois ça.
Ah, vraiment un bel espoir québécois. Puis en plus, une gentleman, tu sais, Marie-Pierre Houle, une belle personne à rencontrer, vraiment sympathique. En plus, elle a une histoire vraiment, tu sais, une histoire spéciale. Là. C'est elle qui a été impliquée dans le décès d'une boxeuse,
oui.
Là, Jeannette Zapata, tu sais, puis elle s'est bien ressortie de tout ça. Franchement, là, puis j'ai confiance. Elle s'en va vers un combat de championnat là, très, très bientôt. Là.
Et c'est vraiment intéressant de voir, bon, tranquillement, pas vite, il y a de plus en plus de galas comme ça qui sont présentés, entre autres, au cabaret du Casino de Montréal. T'sais, on en a eu un il y a quelques semaines à peine. Celui qui va impliquer Marie-Pierre Houle, dont elle sera en finale, c'est le 20 juin prochain. Alors, on parle beaucoup d'Eye of the Tiger Management. Là, c'est groupe Yvon Michel. On prépare tranquillement des combats, puis ça touche quelques athlètes d'ici, du Québec.
Je pense, tu sais, on parle des vedettes montantes dans les dernières semaines. On a relaté plusieurs noms. mais il y en a un qui n'avait pas ressorti encore, c'est Derek Pomerleau.
Qui est un protégé de Stéphane Larouche.
Un autre protégé de Stéphane Larouche. C'est un petit gars qui a 8-0 à l'heure actuelle dans les combats. Il a été impliqué dans... C'est amateur, il a fait une belle carrière amateur, plusieurs championnats canadiens. Donc, vraiment, il est vraiment super à surveiller. Puis en plus, une belle prestance sur le ring. Il est plaisant à voir, il est dynamique, une belle personnalité, petit gars. Fait que je pense que c'est un autre vedette montante là, qu'on peut surveiller dans les prochaines années. Vraiment très intéressant.
Est-ce qu'il est vieux? On parle quand même, il y a 8 combats. Il a quel âge?
Ah non, c'est un petit gars, il a à peine 21-22 ans. Wow. C'est pas vieux du tout. Il sort des rangs amateurs depuis... Ça fait à peu près 4 ans qu'il est dans la boxe professionnelle. Fait que c'est vraiment un bel espoir.
Il est dans quelle catégorie?
Dans les poids moyens, 160 livres, je crois.
OK.
Derek, ouais. Non, une belle catégorie de poids, parce qu'il peut avoir beaucoup de compétiteurs. C'est vraiment une catégorie intéressante, là, ces poids-là. Mais des bons compétiteurs, ils ont le choix. Là. Ils ont le choix d'adversaires. Ça fait que c'est plaisant. Puis en plus, ben, ils sont plusieurs dans des catégories-là au Québec. Ça fait qu'on peut avoir des beaux combats aussi locaux. Quand on parle de combat local, je pense que Derek peut être impliqué dans quelques bons combats locaux là, que ça serait intéressant à voir dans les prochains mois, prochaines semaines. Là. C'est vraiment là. Puis c'est un bel espoir. Ce niveau-là, là, je pense qu'il est à guetter et il est à surveiller.
Excellent, on va suivre ça. Revenons un petit peu dans le passé, Michel. Tu veux nous parler d'un ancien boxeur qui a eu quand même une belle histoire?
Ben, il y en a un qui a une belle histoire. Daniel Simard. Daniel Simard, c'est un jeune homme dans le temps là, qui est arrivé à la boxe vers l'âge de 11 ans. Écoute, il a boxé dans les années 67 à 80, au début des années 80. Il a fait 36 combats. Il a 2 défaites seulement. Peut-être 3, je pense. Je pense qu'on en oublie une. Là. Mais tu sais, c'est un jeune homme qui a combattu à peu près tous les meilleurs au Québec là, dans le temps. Les Mario Cusson, qui était une vedette là, vraiment montante chez les amateurs, qui a été un des très bons boxeurs professionnels. Il a battu un moment donné dans les dernières années. Il s'est frotté là, Il s'est frotté à Denis Lambert,
okay.
Le proposé, lui, il avait son laissé-passer pour les Olympiques dans les années 80. Puis Daniel Simard l'a battu juste quelques mois avant les Olympiques. Donc, c'est vraiment un jeune homme là, qui a une belle carrière amateur. Pour moi, il a arrêté peut-être la boxe de bonne heure. Il avait à peine 18 ans quand il a décidé d'arrêter pour question là, de plus vivre sa jeunesse, ses amours, ces choses-là. Mais il était vraiment intéressant. Même à un moment donné, on avait parlé de... J'avais offert au père Hilton là, de le faire monter dans le ring contre Dave Hilton dans le temps qu'il avait 15 ans, qui était déjà 80-90 combats amateurs. Mais Daniel était tellement respecté dans ce temps-là que M. Hilton avait refusé le combat officiellement. Ça fait que ça a été un jeune homme là, qui a été une belle carrière amateur, beau technicien de boxe. Je trouvais que ça valait la peine qu'on relate un petit peu son nom parce que on parle souvent de boxeurs qui ont marqué, qu'on a entendu parler, les Stéphane Ouellet et les Carl Morel du temps, mais après ça, c'est des jeunes athlètes, des bons athlètes qui ont été un petit peu oubliés puis qu'ils ont fait une belle carrière amateur. Fait que pour moi, c'est fallait renommer Daniel Simard. Puis il y a eu un petit combat, il m'avait relaté dernièrement. Il dit écoute, il dit un de mes beaux souvenirs que j'ai fait. Il dit j'ai boxé au Montagnet, un combat d'exhibition avec mon frère. Et on était tout jeunes encore, mais c'était dans ce soir-là, c'était Jean-Yves Fillion contre Jean-Yves Fillion qui était dans le ring. C'était un gros combat de Jean-Yves Fillion. Puis écoute, il faisait lui, il était en préliminaire de tout ça. Fait que, moi, ça a été un de mes grands souvenirs de la boxe.
OK, excellent. Ben, écoute, c'est des bons souvenirs. C'est fun de voir qu'il y a quand même beaucoup de boxeurs un peu de la région qui ont connu quand même une belle carrière là-dessus.
Ben, j'aimerais, tu sais, je veux revenir de temps en temps.
Ben oui.
Des gens de même. Il y en a eu à Chicoutimi, il y en a eu à Jonquière. Tu sais, Chicoutimi, on avait eu les Gérald Carrier, les Carl Moret, Daniel Duchesne. Il y en a plusieurs qu'on peut relater là, qui ont fait des belles carrières amateurs dans les années, début des années 70-80. Jonquière est arrivé par après avec une panoplie de boxeurs avec les Stéphane Ouellette, les Christian Gagnon de ce monde. Fait que j'ai Pierre Bouchard. Fait que je pense qu'on pourrait en revenir, là, relater un petit peu les carrières de ces gens-là là, de temps à autre. Fait que,
absolument. Parce
qu'on a eu des belles séries, des belles décennies en boxe au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Maintenant, parlons des clubs du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec l'été qui s'en vient. Qu'est-ce qui se passe? J'imagine que c'est congé pour un peu tout le monde ou bien les clubs sont ouverts?
La majorité des clubs, on commence à être en congé. Là. Le club d'Alma, il reste à peu près une semaine. Ils vont fermer, eux autres, du 20 juin au 5 août. Après ça, ils vont réouvrir dans le mois d'août, trois soirs par semaine, le mardi, mercredi, jeudi soir. Puis ils vont recommencer vraiment au début de septembre. Le club Chicoutimi, ben, on regarde, on est déjà en vacances des compétitions normales. Il y a Denis Gravel qui continue son récré au boxe pour quelques semaines encore. Mais on a un horaire d'été qui est déjà sorti le lundi, mercredi soir, puis le mercredi matin et vendredi samedi matin puis dimanche matin. Fait qu'il s'agit de regarder l'horaire sur le site du club de boxe Chicoutimi. Fait que les gens qui veulent s'entraîner cet été, ils vont pouvoir le faire tout l'été. Pour ce qui est de Jonquière, il leur reste une semaine d'entraînement, mais il n'y a pas d'horaire d'été. J'ai parlé au responsable tout à l'heure, José Malaison, mais ils n'ont pas encore d'horaire d'été. Mais ça sera surveillé sur leur site Internet également. Je pense qu'ils vont sûrement ouvrir les portes.
Avant de terminer, tu veux nous parler d'un boxeur qui a eu une très grande carrière jusqu'à quand même un âge assez avancé, Bernard Hopkins. Il y a sûrement plusieurs qui nous écoutent. Oh mon Dieu, je me souviens de Bernard Hopkins. Ah, c'était Bernard pas battu Hopkins. Contre Jean-Pascal, il me semble
que oui. Il s'est même battu à Montréal contre Jean-Pascal. Écoute, puis contre Jean-Pascal, il était rendu déjà âgé.
Oui.
Il devait être dans quarantaine avancée. Je pense que c'était 47-48 ans. Et, écoute, Bernard Hopkins, écoute, c'est un gars qui a commencé la boxe quand même sur le tard. Il a fait de la prison. Il a été condamné à un moment donné dans sa jeunesse à 18 ans de prison. Mm. Il faisait différents vols, de toutes sortes de méfaits. Il a appris la boxe en prison. Quand il est sorti de là, ben, il n'a pas fait ses 18 ans. En fin de compte, la boxe a sauvé. Il a sauvé plusieurs années, je pense. Il a commencé professionnel. Il n'a jamais fait d'amateur. Il a commencé professionnel. Il a subi une défaite à son premier combat professionnel. Fait qu'il était déçu, fâché. Il a décidé d'arrêter pour un an ou deux. En 1990, il recommence la boxe, encore au niveau professionnel. En 92, il gagne le championnat des États-Unis. En 95, il devient champion mondial chez une ceinture IBF qui va garder pendant 10 ans de temps, aller jusqu'en 2005.
Wow!
Il a été, à un moment donné, à 48 ans, il est devenu le plus vieux boxeur professionnel à être champion du monde. Il a refait encore des combats à 48 ans, 49 ans. Il a été chercher les trois ceintures. Il a fait l'unification des ceintures. Il a boxé jusqu'à l'âge de 51. Puis à 48 ans, 49 ans, quand il a gagné ses trois ceintures, il l'a perdu après ça au niveau de Sergei Govalev, quelques mois par après.
Qui était quand même pas n'importe qui.
Non, c'était pas n'importe qui. Il n'y avait aucune défaite quand il s'est battu contre. Puis il a boxé jusqu'à l'âge de 51 ans.
Wow.
C'est quand même là, c'est remarquable. Puis tu regardes ce gars-là aujourd'hui, tu sais, il est impliqué dans des organisations de boxe, une belle personnalité. Vraiment, là, une carrière exceptionnelle. Puis, aller jusqu'à 51 ans, il était déjà, là, tu sais, subi deux défaites en dernier, mais si, puis, vraiment, là, c'est à, tu sais, pour dire que tu peux commencer un sport tard, si tu t'es dédié, puis tu te mets à l'entraînement sérieusement, mais je pense que tout est possible dans la vie, là.
Michel, toujours un grand plaisir de discuter avec toi de boxe, ce beau sport qui mérite d'être appris et compris par plusieurs.
Oui, tu l'as dit, mérite d'être appris et compris par plusieurs, c'est très bien dit.
Merci beaucoup, Michel.
Merci beaucoup, Dan.
À la prochaine. Oui, mérite d'être compris. Il y en a plusieurs. Hey, mon Dieu, il se tape sa gueule. C'est pas juste ça. Il faut voir davantage qu'est-ce que ce sport-là qui est passé à travers. Tu sais, la boxe, là, ça fait des décennies que ça existe, là, des générations. Et quand on parle de sport professionnel actuel, là, ça fait partie des plus vieux sports. Il est 16h dans quelques instants. Oh, un autre gars d'expérience qui s'en vient. Serge Cloutier va nous parler, entre autres, de la finale de la Coupe Stanley, du repêchage des Sacs. Qu'est-ce qu'il en pense? Puis là, les Sacs ont 4 joueurs de 20 ans. On fait quoi? L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 ans. Employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Et vous m'appelez maintenant 88 82 92 50 pour être finaliste, du jour pour l'obtention des billets pour le CF Montréal du 20 juillet prochain.
Du 14 au 16 juin, le vent vous pousse à Saint-Honoré-dans-le-Vent. Plein d'activités gratuites en journée, cerf-volées internationaux, activités familiales, escalade, démo de BMX, spectacle et food truck. Et sous le chapiteau en soirée le 14 juin, la grand-messe hommage au Cowboy Fringant avec Bruno Rodeo en ouverture. Et le 15 juin, Pépé et sa guitare ainsi que 03 Corps. Ne manquez pas les afters au bar Le Laser avec Grand Chef Bandit et Violette P. Billets en vente, lepointdevente.com.
Une présentation de Niobec.
Tracez votre voie avec Jean Dumas Mitsubishi de Jonquière.
Taux de financement amélioré sur tous nos modèles à l'achat et en location. Plan d'entretien de 2 ans sans frais en location.
Subvention gouvernementale jusqu'à 10 000 $ sur PHEV en stock.
Plus de 150 véhicules en inventaire pour livraison immédiate.
La meilleure garantie de l'industrie.
Taux de financement aussi bas que 2,99% sur certains modèles.
Rabais fidélité.
Passez rencontrer notre équipe dynamique en concession chez Jean Dumas Mitsubishi, boulevard du Royaume, Jonquière.
Jean-Dumas Multi-concessionnaire.
Voici l'indice. Un arrêt incontournable avant d'aller sur les Monts-Valais. Oui, bonne réponse! Achille Tremblay-Fils, avec Épicerie Accept, Boucherie et Quincaillerie B&R. Avant de vous rendre sur les Monts-Valais, le dernier arrêt pour un service complet. Oui, Achille Tremblay-Fils, 555 route de Tadoussac à Saint-Fulgence.
Déplacez-vous avec style et confort à bord du Edge 2024, offert à un taux d'intérêt de 3,99% en achat 72 mois ou obtenez une allocation livraison de 3 500. Vaste choix en inventaire. Au Saguenay, c'est perrautoford.com et galerieford.com.
Quand il s'agit de propane, faut voir les pros. Centre de service Propane Gravel de Saint-Ambroise. Les experts en vérification, réparation et vente d'appareils au gaz propane. Bonbonne expirée, Propane Gravel peut la requalifier. Sécuritaire et économique, elle sera bonne pour encore 10 ans. Un problème de climatiseur dans votre VR? Nous sommes spécialisés en vente et réparation. Le réfrigérateur au propane du chalet ou du VR est défectueux? On peut le remettre à neuf. Centre de service Propane Gravel, Saint-Ambroise, 672-4290, propanegravel.com.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Oh, beaucoup de sujets à discuter avec notre ami Serge Cloutier. On va aller le rejoindre immédiatement. Salut Serge!
Salut Dom, ça va bien?
Ben oui, ça va très bien, ça va très bien. Finale de la Coupe Stanley, les Panthers en avant 2-0. Surpris ou tu t'attendais à voir les Panthers nettement plus forts que les Oilers ou déçus des Oilers?
Bien, je vais te dire que, tu sais, la semaine passée, j'ai fait une farce. Mon cœur est avec Edmonton,
oui,
et mon portefeuille avec les Panthers.
Oui.
Puis honnêtement, Dom, là, toi, tu avais pris les Panthers depuis le début.
Oui.
Chapeau, parce qu'ils ont une Moses de bonne équipe de hockey. Puis c'est une équipe qui arrête les meilleurs de l'autre côté. Ils les font mal pareil.
Absolument.
Honnêtement, là, ils dominent. Parce que McDavid et Draisaitl ne sont pas capables de rien faire. Encore pire, Draisaitl, parce que McDavid a encore l'habilité, la rapidité.
Oui. Et là,
il vire sur une scène.
Et Draisaitl, lui, c'est la frustration. Puis on l'a vu avec le geste qu'il a fait à l'endroit de Barkov.
Absolument. Draisaitl, il est rendu qu'il lance dans des angles impossibles. Il joue tellement bien défensivement, les Panthers, présentement, là, qu'ils font mal paraître l'autre côté. Il amène McDavid dans le coin. Il suit. Il laisse aller avec la rondelle. Mais là, McDavid, il n'est pas devant le filet. Là, il cherche ses joueurs, mais ses joueurs sont tous couverts. Alors là, ils n'ont pas d'opportunité. Ah, il y avait 7 lancés après 2 périodes. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, là. Les Panthers sont plus forts présentement. Une meilleure équipe dans l'ensemble de tout, là. Le gardien de but, les défenseurs, et chapeau devant l'entraîneur Paul Maurice.
Oui,
qui a amené un système comme ça.
Exactement, et après une si longue carrière, ça fait qu'écoute, moi je me souviens, la première fois que je suis allé voir le Canadien au Centre Molson à l'époque contre les Whalers d'Hartford, c'était lui le coach. C'était en 1997. Donc lui, ça fait quasiment 30 ans qu'il est dans la Ligue nationale, et là, il n'est plus qu'à 2 victoires de la soulever, la Coupe Stanley.
Puis tu vois, il a succédé à Joel Quenneville,
oui,
qui avait démissionné parce que Joel Quenneville avait été pris d'un incident à Chicago.
Oui,
c'était pas nécessairement de sa faute, mais il avait plus le choix. Il avait démissionné et Paul Maurice a pris la relève. Il a monté ce club-là, finale de la Coupe Stanley l'année passée, puis là, à 2 victoires de remporter la Coupe. Alors, à un moment donné, là, tu dis « Oh boy, ça vaut vraiment la peine ».
Oui. Parlons des Saguenay Chicoutimi maintenant et le repêchage qui a eu le week-end dernier. Satisfait de ce que Yannick Jean fait?
Bien, moi, je pense que oui. Écoute, la première des choses, on a été chercher 2 joueurs de 20 ans.
Oui.
Avec un bon potentiel, avec Félix Gagnon, petit gars de Jonquière, qui lui revient à Chicoutimi pour terminer sa carrière. Puis on a été chercher Godette, qui lui, depuis 2 ans, il est toujours avec une équipe gagnante.
Et lui,
avec les remparts.
Lui, il sait comment gagner. Hein?
Ben, il sait comment gagner, puis il va entourer les jeunes.
Exact.
Alors, Gagnon et Godette, là, ils vont entourer nos jeunes de 16 ans de l'an dernier, puis même Maxime Massé, là, qui va être là encore cette année à 18 ans. Alors, je pense que les Sags ont bien travaillé de ce côté-là. Maintenant, les choix. Je sais qu'ils ont repêché comme premier choix Plouf.
Oui, Jaden Plouf.
Au sixième rang. L'autre, Lawrence, probablement qu'il ne viendra pas. Mais c'est pas trop grave, ça. Parce que s'il vient, c'est un bonus.
Oui.
S'il vient pas, on va pouvoir repêcher encore un choix l'année prochaine en première ronde.
Compensation.
Là. Ben c'est ça, une compensation. Maintenant, les Sags, cette année, il faut bien penser une chose. Ils vont monter, ils vont progresser. Mais on est dans la conférence la plus forte.
Oui, Rimouski, cette année, là, eux, ben, ils vont le tout pour le tout parce que c'est eux qui accueillent la Coupe Memorial.
Rimouski, qui ont eu 4 affaires en passant, qui était le meilleur joueur de la Ligue l'année passée.
Uh-huh.
Il y a Moncton, qui est l'équipe à battre, je pense.
Oui.
Et après ça, tu as Cap-Breton, puis tu as les Sags. Bécomo, les remparts, on oublie ça, Bécomo. Ils sont jeunes, ils ont des bons, encore de très bons jeunes, mais ils ont perdu des vétérans comme Gill et compagnie. Puis je pense pas qu'ils soient là cette année. Alors, tu as 4 équipes sur 6 qui vont se battre dans la division des Saguenayens. Alors ça va être une saison intéressante à suivre avec des bons clubs. Après ça, ben là, on verra, mais je pense que les Sags vont progresser et on va voir ce qui va arriver, mais je pense qu'ils vont être encore dans le peloton de tête, là, 5 sur 7 dans ce coin-là.
Selon toi, bon, comme tu as mentionné, on a fait l'acquisition de 2 joueurs de 20 ans avec Godet et Gagnon. Là, on en a 4. Qui va partir entre Uzereau et De La Fontaine?
Bien, Je ne sais pas. Husserl, là, c'est un Moses de bon joueur comme 20 ans.
Lui, il a manqué dans la série contre Cap-Breton, hein?
Et beaucoup. Et là, tu fais quoi avec De La Fontaine comme gardien de but de 20 ans? Est-ce que l'autre est prêt à prendre la relève? Précourt?
Précourt, ben oui, qui a impressionné. Moi, il m'a surpris. Ça a été ma surprise l'année passée. Là, je ne m'attendais pas à le voir performer de la sorte, là.
Oui, bien là, c'est ça. Alors là, Yannick Jean, il va avoir une bonne décision à prendre parce que là, tu dis, oui, on laisse aller notre gardien de but. Est-ce que l'autre est prêt à 18 ans? Pas certain. Est-ce qu'on laisse aller Husserl? Ça va être une très, très bonne décision à prendre. C'est sûr que Godette et Gagnon, eux autres sont là, puis pour y rester. Alors, ça va être la décision entre les deux. Je ne sais pas, tu as encore besoin de ton gardien de but de 20 ans cette année pour continuer de progresser puis continuer de faire prendre d'expérience à Précourt.
Parce que si Précourt, on décide de se départir de La Fontaine, Précourt devient numéro 1 à 18 ans, tu as besoin de numéro 2 là encore.
Bien, c'est ça. Alors là, ça va prendre une autre transaction pour aller chercher un gardien de but d'expérience. Alors, c'est tout là que le travail va se faire à partir du mois d'août, puis peut-être aux fêtes. Est-ce qu'on va garder au début de l'année quatre joueurs de 20 ans? J'en doute.
Ouais.
On ne sait jamais là, des décisions qu'ils vont prendre. Ils vont voir où ils sont rendus, comment la saison se déroule rendue aux fêtes. Mais il va falloir qu'ils prennent une décision entre Husserl et De La Fontaine. Ce n'est pas facile à prendre.
Non, effectivement. On va parler de golf. Il fait beau. On a eu un petit peu plus de pluie dans les derniers jours, mais c'est quand même du beau temps. Et là, bien, va débuter demain le US Open du côté de Pinehurst, beau circuit, puis US Open, pas aussi mythique que le Masters, mais c'est quand même un tournoi intéressant.
Bien, normalement, là, c'est le tournoi qui est le plus difficile pour les gagnants. En 2017, Brooks Koepka a gagné à plus 1.
Hey!
Fait que c'est rare, parce que normalement, là, c'est moins 4, moins 5, moins 7, moins 10, moins 9. En fin de semaine, là, le Memorial, c'était un terrain extrêmement difficile. Scheffler a réussi à gagner par la peau des dents, mais c'est sa cinquième victoire de l'année. Il a résisté à la poussée de Morikawa. Maintenant, là, Scheffler, écoute bien, demain, à 1h14 demain après-midi, McIlroy, Schauffele et Scheffler sur le même trio.
Ensemble? Ah oui!
Ensemble, les trois pour deux jours. Parce que les deux premières journées, on part au 1, on part au 10, mais les trios demeurent ensemble.
OK.
Puis après ça, bien là, évidemment, on fait la coupure. Mais là, Tiger, demain matin, lui, à 7h29, parce que, comme je le mentionnais, on part au 10, puis on part au 1. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de golfeurs. Zalatoris, Fitzpatrick et Tiger Woods.
Oh, intéressant.
Puis Tiger, il est là depuis une semaine. Il a pratiqué avec son fils.
OK. Donc, lui, il est prêt. Il a pris le temps d'arriver plus tôt, pour éviter la fatigue.
Il est sur invitation, dans le fond, avec ce qu'il a fait pour le golf. Tu sais, on sait qu'il y a plus de difficultés, puis c'est normal, avec toutes les blessures et les opérations qu'il y a eues.
Mais je vais te dire, je vais te dire que j'ai écouté le Masters il y a quelques semaines, puis quand il arrive au premier, puis le présentateur... Mesdames, messieurs, prochain golfeur, Tiger Woods, les applaudissements. Écoute, j'ai des frissons juste à en parler. Il a encore l'amour du public.
Absolument. Tu sais, les gens savent qu'il a ralenti, qu'il ne gagnera plus de gros tournois, non. Mais il veut participer quand même. Il veut essayer de faire la coupure, comme on dit. Et là, en fin de semaine, le dernier tournoi, le championnat de la PGA, malheureusement, ça n'a pas bien été. Mais là, est-ce qu'il est capable en fin de semaine à Pinehurst? Il y a deux terrains là-bas. C'est le Pinehurst 2 qui est le plus difficile.
Okay.
J'ai hâte de voir comment ça va réagir à compter de demain.
On va suivre ça de très près. Serge Cloutier, merci beaucoup encore une fois de tes bons commentaires.
Oui, Dom. Puis en passant, c'est Wyndham Clark qui a gagné le US Open l'an passé.
Okay.
Alors, qui va le lui succéder? Ou est-ce qu'il est capable d'en gagner deux de suite? Il ne sera pas favori demain, ça c'est certain.
Est-ce que Scheffler va planer sur cette saison extraordinaire en plus? Écoute, il est dur à battre en ce moment. Là.
Ah, il est dur à battre. Son cadet l'aime tellement. Il est rendu à 2 200 000, le cadet.
Hey, c'est le fun, ça?
Ben, le cadet, là, il est à 7 ou 10 % Puis les gros tournois qu'il a gagnés, c'était 4 millions 4 500 000. À 10 % là, le cadet, là, c'est 400 000 pour la fin de semaine, là.
Puis, alors, c'est une belle job. Tu suis le golfeur, des fois tu l'aides un peu, tu amènes ses bâtons. Colin, fun ça?
2 200 000 de gagner le cadet de Scheffler à date. C'est assez spécial puis assez impressionnant.
Absolument. Serge, toujours un gros merci.
Bonne semaine.
Allez, bye. 16h14. Hey, les voyageurs sont en action ce soir au stade Richard Demel contre les Diamants de Québec. C'est à 19h30. Mais demain, il y a un autre match également au stade Richard Demel contre les Alouettes de Charlebourg. L'équipe qui était là hier, on les a battus 9-5 du côté des voyageurs. Ce soir contre Québec, c'est William Saint-Pierre qui sera le lanceur pour les Diamants. Ils avaient battu, les voyageurs lors du dernier passage le 30 mai dernier. Une sortie très intéressante. C'est un bon lanceur, c'est un gars d'expérience qui est là, qui sera donc au monticule. Dossier de 2 victoires, 1 défaite et une moyenne de points mérités 0,70. Son adversaire, ben, c'est un petit gars de la place, un petit gars de Jonquière. Philippe Bégin va obtenir un 3e départ cette saison. Aucune victoire, 1 défaite. Moyenne de points mérités 1,68. Donc, une fiche également intéressante. Un bon duel, un bon match ce soir. Vous voulez y aller pour le match de demain? J'ai fait tirer des billets pour le match de ce soir hier, mais pour le match de demain, j'ai quelques paires de billets. Vous nous appelez maintenant 418-82-92-50. Vous devez venir chercher les billets demain à la station. Ouverture des bureaux entre 8h30 et 11h30, et 13h30 et 15h30. Donc, vous devez venir chercher les billets demain ici à la station pour aller aux voyageurs demain soir.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio d'ici.
Everyone, tout le monde, ici Marc Vigneault. Je vous invite à prendre votre première gorgée de café ce samedi matin dès 8h pour l'édition matinale de Destination New Country, présentée par les sauces Bobby. Vous pensez faire une pizza sur le barbecue au camping cet été, une succulente poutine en famille ou une fondue entre amis? Eh bien, pensez aux sauces Bobby. Passez nous voir au 4000 rue de la Fabrique Jonquière et profitez de notre spécial estival à 3,99 sur tous nos produits, dont notre fameuse panure à frire. C'est donc un rendez-vous ce samedi 8h pour Destination New Country, édition matinale sur ma radio d'ici, le 92.5.
Les voyageurs, une invitation de Jean Dumas Saguenay Mitsubishi qui vous offre un vaste inventaire pour livraison immédiate avec la meilleure garantie de l'industrie. Avec Jean Dumas Saguenay Mitsubishi, tracez votre voie. De la bijouterie au rubis, place du Royaume, 30 ans d'expérience et de service après-vente. De spécialité radiateur, pneus et mécanique, 50 ans de fidélité. Le beau vitre d'auto, jamais plus de problème sur réparation ou changement de vitre d'auto. Des dépanneurs chef Maestro, le chef de file des dépanneurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et de Prévaction, la mutuelle en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Ce mercredi 19h30, les voyageurs reçoivent au stade Richard Demel les Diamants de Québec. On vient encourager notre équipe, les voyageurs, la force du Nord.
Au prochain tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 64 millions. Ça change pas le monde, sauf que, quand même, ça commence à le changer un petit peu, là.
On parle basketball avec Phil Urtubiz.
Phil Urtubiz, bienvenue.
Bonjour.
Phil, grosse nouvelle qui est tombée aujourd'hui, puis triste nouvelle dans le monde du basketball. Quand on parle de Jerry West, ancien joueur, ancien coach, ancien directeur général, fondateur de ce basketball, c'est pratiquement un jour de deuil aux États-Unis.
Écoute, je ne sais pas si tu savais, Dom, là, mais c'est le logo de NBA.
Oui.
Le basket sur le logo, là, ça se trouve être Jerry West.
C'est Jerry West. C'est quand même spécial.
Oui, oh, oui, vraiment. C'est vraiment lui qui a inspiré. Puis, fréquemment, je vous parle de la ligue de la NBA qui a pris un tournant dans les années 70-80 pour devenir populaire. Et c'était dû à la grosse rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson, donc les Celtics de Boston, les Lakers de Los Angeles. Jerry West était soit entraîneur, soit directeur général, a toujours été impliqué autour des Lakers dans les grosses années qu'on appelait Showtime. Donc, okay. C'était le gros spectacle et il a contribué vraiment, autant comme joueur, comme membre d'une équipe, là. Vraiment, là, comme tu dis, là, c'est une grosse journée de deuil pour la NBA là, et ses fans.
Il aura laissé tout un hommage. Et comment bâtir des équipes, gagner autant en tant que joueur que bâtisseur? Écoute, quand tu dis qu'il a repêché Magic Johnson, il a repêché Kobe Bryant, il a amené Shaquille O'Neal de ses côtés pour connaître la fameuse dynastie des Lakers, c'est assez extraordinaire. Là.
Oh oui, vraiment. Puis il était connu comme quelqu'un de Il y a une série sur Crave là, en ce moment sur les Lakers où on apprend à connaître le personnage de Jerry West. C'est tout un compétiteur. Là. C'est-à-dire, le gars, là, il refusait perdre. Un peu comme la mentalité à Kobe, là, qu'on reconnaît oui. à Kobe Bryant, un compétiteur. Jerry West, même genre de compétiteur. Là. Donc, vraiment, vraiment intéressant.
Revenons sur la finale de la NBA. Les Celtics qui sont en avance 2-0 sur les Mavericks de Dallas. Es-tu surpris de voir la domination des Celtics ou tu t'attendais un petit peu à ça?
Je suis déçu de Kyrie Irving de sa performance. Parce que c'est certain que Dallas, Luka Doncic, on ne peut pas lui reprocher autre chose que de ne pas être bon lancé franc en ce moment. Ouais. Tu sais, je veux dire, le gars, il fait absolument tout sur le terrain. Il réussit des paniers, là. Je veux dire, c'est un magicien. Là. Des fois, il rentre au panier, là, il peut avoir trois joueurs des Celtics sur lui. Puis je ne sais pas de quelle façon il réussit à trouver une petite faille pour réussir à placer le ballon, mais il réussit toujours à le faire. Il fait vraiment tout seul. Et les Celtics, défensivement, avec Jrue Holiday, Jaylen Brown, qui sont tous les deux des membres des deux premières équipes de défensives de toute la Ligue. Tatum, qui ne performe pas tant bien, mais que les Celtics gagnent quand même. Porzingis, là, on va voir, là, il n'est pas certain de jouer ce soir. Mais vraiment, les Celtics, défensivement, c'est ça la différence. Sont en train de menotter Kyrie Irving et tous les autres joueurs autres que Luka Doncic. Et c'est ce qui fait qu'ils gagnent 2-0.
Et puis, on parle quand même de victoires intéressantes. Ben, la première a été assez écrasante, un petit peu plus serrée lors du dernier match à Boston. Mais le fait de se retrouver à Dallas, les Mavericks n'ont pas le choix de gagner ce soir-là.
Ils n'ont pas le choix. Puis là, j'ai hâte de voir Porzingis parce que il a été le X Factor. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Là. Il était censé revenir pour cette série-là. Il a joué les deux premiers matchs. Il a fait toute une différence, autant défensivement, là, des gros blocs, des gros rebonds. Premier match, c'est lui qui a fait le plus de points de l'équipe en jouant seulement 20 minutes sur 48 minutes. Là, s'il ne joue pas ce soir, la porte est ouverte là, pour Dallas, pour en gagner deux de suite. Là.
Okay.
Si ça ne se passe pas, ça va se terminer assez vite là, en 4 ou en 5, parce que en ce moment, Jrue Holiday et Jaylen Brown menottent Kyrie Irving littéralement. Là.
Ça va être intéressant à suivre. Donc, ce soir, ce match numéro 3 et dans deux jours, vendredi, le match numéro 4. Hey, l'autre fois, on discutait justement le fait, bon, le basket est un sport extrêmement en santé. Les contrats qui sont offerts aux joueurs, mais les contrats également qui sont offerts aux coachs. D'ailleurs, il y a un coach qui avait accepté toute une offre. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que l'entraîneur-chef, en fait, qui pourrait devenir l'entraîneur-chef des Lakers, a une offre de 6 ans. 70 millions de dollars. Et là, il a dit non.
Il a refusé.
C'est fou!
Mais au niveau de la NCAA, les contrats d'entraîneurs sont aussi gros. Là. Tu sais, dans okay. la NCAA, là, c'est sûr qu'il y a des coachs là, qui font 15 millions par année, 10-15 millions là, en ce moment. Là. Donc, quand on parle que c'est un sport en santé, là, c'est assez incroyable. Puis Dan Hurley, lui, il préfère y aller parce que ça fait deux championnats de suite qu'il gagne de la NCAA avec l'Université du Connecticut, donc UConn Huskies. Et là, il a fait le choix d'y aller pour une troisième année puis de refuser le contrat. Il sait très bien que ces genres de contrats-là, il va revenir. Puis en même temps aussi, faire le saut dans la NBA en ce moment, les Lakers, ça reste une équipe assez incertaine.
Ouais.
C'est un bon panier de crabes. Là, parce que LeBron James, moi, être son entraîneur demain matin quand tu fais le saut dans la NBA, on sait tous que c'est un mini GM, LeBron James, c'est pas évident. On sait pas qu'est-ce qui va se passer aussi avec le recrutement de son fils, est-ce qu'il va vouloir quitter l'équipe. Anthony Davis est fréquemment blessé et les attentes avec les Lakers... C'est simple, c'est le Canadien de Montréal, là, c'est gagner un championnat à chaque année. Là.
Oh, OK.
Donc, c'est pour ça que c'est quand même un bon panier de crabes là, de prendre les Lakers. De ce que je sais, c'est que UConn accoterait le contrat des Lakers. Ça, c'est ce qu'on lit en ce moment sur les... Ils perdraient pas d'argent. Là.
OK, c'est puis pas vraiment dur pour eux, là, tu sais, il fait gagner l'équipe en plus de ça, là.
Exactement. Là. Puis, tu sais, je veux dire, de ce que je pense, là, le UConn, à chaque match, là, ils font ça le con. C'est quasiment 7 à 10 millions qu'ils font par partie, là, comme université. Là. Donc, il n'y a pas de problème là non plus. Là.
Tu as parlé de LeBron James. Est-ce que c'est le prochain emploi après sa retraite comme joueur, directeur général?
Écoute, il l'est depuis 20 ans.
Quasiment. Il l'est, hein, c'est ça.
Il est à Cleveland, il est à Miami, les Lakers. Je pense que ça, dans le temps, là, ça serait assez facile pour lui d'être GM après sa carrière. Je pense que sa priorité en ce moment, c'est plus sa business, son après-carrière, vraiment au niveau de la business. Mais là, il y a son fils qui va être recruté cette année. En ce moment, il serait 55e, je crois, au niveau du mock draft NBA. Donc, dans le classement, il serait 55e. Je serais pas surpris si jamais une autre équipe que les Lakers repêche le fils à LeBron, que LeBron force pour bouger avec cette équipe-là.
OK, intéressant. Hey, je veux rester avec le dossier de LeBron parce que, bon, je suis rendu assez vieux pour avoir vu une carrière d'un joueur quand même élite pratiquement au complet. Écoute, il approche de la quarantaine. On l'a vu jouer depuis les 20 dernières années. J'ai vu le début de la carrière de Sidney Crosby. Là, on peut juger. Est-ce qu'il a rempli les attentes qu'on avait de lui quand on l'a repêché?
Écoute, c'est au niveau des statistiques, là, c'est un peu le Wayne Gretzky du basket.
Oui. Hein?
Je veux dire, c'est monsieur statistique. Là. Tu sais, points par match, rebond, assist, bloc. Tu sais, tu trouves toutes les statistiques. Là. LeBron est en tête de liste. Donc ça, il a vraiment là, il a répondu aux attentes. Il a gagné des championnats. La seule chose qu'on se questionne, c'est quand on le compare, mettons, à Michael Jordan ou à Kobe Bryant ou à Will Chamberlain ou à Magic Johnson, c'est que LeBron n'a jamais resté avec la même équipe qu'il a repêché, c'est-à-dire ouais. Cleveland. Il n'a pas réussi à monter un programme et il a plus perdu de finale qu'il en a de gagné. Là. Donc, on ne reconnaît pas en lui un réel gagnant.
Donc, un gars qui, par exemple, comme Jordan, qui faisait une différence dans un match.
Clé. Exactement. T'sais, je veux dire, Jordan refusait de perdre. T'sais, je veux dire, c'est dans son ADN. Je veux dire, c'est lui qui voulait le ballon ses derniers lancers. Je veux dire, en défense, il faisait toujours le gros jeu. Là, je me souviens de je pense en 98, là, un gros vol de balle sur Karl Malone que personne n'a vu venir, qui a changé la game complètement pour aller gagner le championnat. C'est des choses que LeBron n'a jamais fait. T'sais. Donc, on reconnaît en Michael Jordan plus un gagnant que LeBron James. C'est un peu ce qui lui est reproché, là, dans le fond, là, dans le fameux top 3. C'est qui les trois meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA? C'est tout le temps soit Kobe, soit Michael Jordan, soit LeBron. Puis LeBron va souvent deuxième et troisième à cause de ça.
OK, très intéressant. Donc, on va suivre ça, le match numéro 3 ce soir du côté de Dallas. On peut suivre ça en français chez du côté d'RDS. Également, le match numéro 4 du côté toujours de Dallas. Les Celtics sont les devants 2-0. Ça prend une victoire ce soir des Mavericks et la série pourrait être relancée.
Oui, puis j'ai hâte de l'écouter. J'ai hâte de savoir Porzingis ce qui se passe avec lui parce que je pense que ça peut être la porte ouverte pour Dallas pour en gagner une ce soir.
Philippe Tubise, merci beaucoup.
Bonne semaine.
À la semaine prochaine. Et ça fait déjà le tour de ce 60 minutes de sport dans le vestiaire. Hein. On en a parlé. On a parlé de boxe, on a parlé de hockey, on a parlé de baseball. D'ailleurs, les Blue Jays qui ont procédé une transaction aujourd'hui. On rappelle que Kevin Biggio s'en va avec les Dodgers à Los Angeles en retour d'un lanceur qui est actuellement dans les mineurs. Les Jays qui sont en action actuellement. On est en fin de 8e manche. Tir de l'arrière 5-1 face aux Brewers de Milwaukee. 3e et dernier match de cette série. C'était une victoire de chaque côté. Davis Snyder a ouvert la marque pour les Jays en première manche avec un circuit. Mais une 6e manche profiteuse pour les Brewers qui ont marqué leurs 5 points lors de leur 6e tour au bâton. 2 simples, 1 double et 1 circuit qui ont permis aux Brewers d'avoir les devants actuellement. Seulement 3 coups sûrs pour les Blue Jays. Et à noter que Vladimir Guerrero Jr. n'est pas en uniforme pour ce match. On ferme le vestiaire dans quelques instants. C'est le retour du 92.5.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés.
foyer dynamique. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez... L'Étoile Dodge Chrysler!